définition conceptuelle de cette chose-là et d'en faire de ce terme-là et d'en faire en fait un objet scientifique. À la suite de cette thèse, j'ai décidé d'aller plus loin et de travailler sur la question du service informationnel à partir des tiers lieux. La discipline où je me promène actuellement, c'est celle de la science des services, qui a cette particularité que la finalité de la science des services n'est pas d'écrire un article scientifique, mais d'être dans le mouvement et d'être en action finalement par la création de services informationnels. Les services informationnels, vous voyez ce que je veux dire, d'un programme, d'un logiciel, ou des choses comme ceci, on peut appeler ça dans leur généralité des services informationnels. Donc l'objectif de ma recherche finalement, c'est de créer de la connaissance et d'aboutir à un service informationnel qui soit utilisable par tous et pour tous. Et ce service informationnel, je vais ensuite le justifier par un article scientifique. Voilà un peu la démarche dans laquelle on trouve. Donc j'ai travaillé sur les tiers-lieux. Maintenant, mon objectif final, l'aboutissement de ma vie, ce sera de travailler sur un tiers-lieu en tant que service informationnel. J'ai travaillé sur les tiers-lieux en tant que service, ensuite j'ai travaillé sur les tiers-lieux en tant que concept. Je vais vous présenter tout ça. Et maintenant, l'aboutissement, c'est de travailler de créer un tiers-lieu en tant que service informationnel. Ça va pour l'instant? N'hésitez pas.
Vous êtes rattaché à quel département?
Centre universitaire informatique.
Ah, informatique.
Informatique, oui. Institut de sciences et services au centre universitaire informatique. Ouais, je suis un sociologue qui travaille avec plein de personnes. C'est l'intérêt des sciences et services, c'est celle-ci, justement. Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas non plus la mère des disciplines, mais c'est une discipline qui est par nature multidisciplinaire. Dans le sens où si on veut travailler sur un service informationnel, obligatoirement on doit avoir des gens qui sont des ingénieurs, des managers, on doit avoir des sociologues, beaucoup, des designers, probablement certainement des urbanistes dans le cas de services sur la Smart City par exemple. Donc voilà, obligatoirement c'est une discipline qui va permettre à plein de personnes différentes de se rejoindre, de travailler sur un objet commun, et comme vous allez voir, le tiers-lieu dans ce sens-là est juste pertinent. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Alors,
ils n'entendent pas très bien dans les autres succursales.
Pardon.
On essaye.
Vous m'entendez, mais après je bouge les mains.
Ouais, mais on essaie pas.
Si je le mets là, ça?
Oui, on essaye.
Okay. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez long. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Parce que je peux partir parler pendant des heures de ce sujet-là. On va essayer de dérouler. Et puis, je pense que si on arrive à aller jusqu'à situation d'exploration, c'est bien. D'accord? Ensuite, ce sera plus de discussion, très probablement. Alors, pour commencer, je vais vous présenter très très rapidement cette histoire de tiers-lieu. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Habituellement, c'est un mot qui est un peu en vogue. Non, ça... Jamais, c'est quelque chose qui vous est jamais venu à l'oreille?
C'est pour le podcast, non? The surprise. Non, c'est pas ça?
Et c'est assez intéressant que vous le dites, que vous commenciez par cela, parce qu'effectivement, c'est une des bases, en fait. Dans les années 80, il y a un sociologue qui étudiait le développement urbanistique aux États-Unis. Vous savez, je vais y aller avec plein de modestie devant vous. Cette création de quartiers périphériques aux États-Unis, avec des grandes villes d'un côté, puis des grandes quartiers périphériques avec ces grandes maisons comme on voit dans les séries. Encore aux États-Unis. Et en fait, dans ces quartiers, ils remarquaient qu'il n'y avait plus de lieu de rencontre. Il n'y avait plus de bistrot, il n'y avait plus de pizzeria, il n'y avait même plus de place de village. Il est allé jusqu'à dire que si les maisons étaient grandes, c'est parce que les gens ne se rencontraient plus dehors. Il est allé jusqu'à dire qu'il n'y avait plus de trottoir. Et donc, il en fait regrettait l'absence du coup de ce qu'il appelait les troisièmes lieux. Les troisièmes lieux qu'il distinguait du premier lieu qui était supposé être la maison et le second lieu qui était le lieu de travail. C'est parce qu'il voyait en fait que la construction des villes se faisait avec un lieu où les gens restaient chez eux, puis un lieu où ils allaient travailler, puis ensuite ils sortaient, puis ils prenaient la voiture. Il n'y avait plus de lieu où les gens se rencontraient. Donc il a créé, il a pensé à ce concept de troisième lieu qui a très vite été pris par effectivement Starbucks. Starbucks en a fait un peu son porte-étendard quand ils ont commencé à créer leur premier bistrot avec des canapés, avec des gens qui pouvaient rester, rencontrer d'autres personnes, travailler aussi. Et donc quand on voit le déplacement de ce concept jusqu'à chez nous, en fait, en Europe, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que le problème des troisièmes lieux, finalement, en Europe, il n'existe que très peu, puisqu'il y a toujours des troisièmes lieux en Europe. Si on se concentre sur les bars, par exemple, les places, les bars, c'est un peu partout. Donc ce problème-là n'est pas vraiment local. Le deuxième, c'est qu'on voit l'apparition de nouveaux types de services, type les coworking, type les fab labs. Ensuite, on va voir les makerspace, les hackerspace et tous ces anglicismes un peu barbares, mais qui montrent une nouvelle forme de nouveaux lieux de rencontre finalement, où la rencontre n'a pas pour finalité simplement de discuter ou de passer du bon temps, la rencontre n'a pas pour finalité, la convivialité ou même la sociabilité, mais dans les Fab Labs, coworking ou autres lieux de ce genre-là, parce que maintenant il y en a énormément, c'est ça qui est intéressant, la finalité, c'est de faire quelque chose ensemble. Maintenant, les gens se rencontrent, bien sûr, pour discuter, bien sûr, pour boire des coups, bien sûr, pour faire la fête. Oldenburg l'analyse très bien. Quand il analyse cela, il se met dans le prolongement de Habermas, par exemple, qui analyse ça quand il élabore son concept d'espace public. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qu'il ne voit pas, Oldenburg, pour plein de raisons, c'est justement ce passage de la convivialité et de la sociabilité à des personnes qui se rencontrent pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, moi, tout mon travail, ça a été d'aller plus loin, finalement, dans l'esprit d'Oldenburg, d'aller vraiment voir ce qui se passait dans ces trois nouveaux tiers-lieux, finalement, puisqu'on les appelait des tiers-lieux et plus des third place, qui est une traduction un peu bâtarde, puisque le terme third n'est pas une traduction, le terme tiers n'est pas une traduction directe du terme third. Et donc, d'aller dans les coworking, d'aller dans les Fab Labs, d'aller dans les hacker space, meter space, bio hacker space, j'ai fait 5 ans de ça, j'ai fait 5 ans de ça, pour voir ce qui se jouait là-bas, pour voir quel type de pratique émergeait. Et finalement, tout le long, ce qu'on voit apparaître, c'est ce que je vous ai dit jusque-là, une situation tout à fait originale. Pas originale parce qu'elle n'existait pas avant, originale parce qu'elle était envisagée, elle était produite. On créait des situations artificielles où les gens se réunissaient, des gens différents, qui n'étaient pas liés contractuellement, c'est original, qui n'avaient pas besoin de cette coordination.
On ne rentre pas dans les succursales, il va falloir tenir le micro. Merci.
Désolé à vous. Donc on se retrouvait dans des situations tout à fait originales. Elles existent, ces situations, elles sont vieilles comme le monde, mais le fait qu'elles soient automatisées, finalement, ou industrialisées, c'était ça l'originalité. Des gens différents qui n'étaient pas liés contractuellement, qui étaient d'origine différente, de culture différente, de métiers différents, se réunissaient dans le même endroit et puis travaillaient à créer quelque chose en commun. Au vu de tout cela, après avoir affiné, après avoir recherché systématiquement ce qui se passait dans ces tiers-lieux, qui sont des nouveaux troisième lieux, qui sont des nouveaux formes d'espace public, j'en suis arrivé à cette définition conceptuelle qui est finalement mon objet art, moi, qui était l'objet art, j'espère faire autre chose dans le temps. Et donc je suis arrivé à cette définition, donc, le type de lieu serait une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuelles engage intentionnellement à la conception de représentation commune. Je ne vais pas vous le demander, je ne vais pas vous expliquer point par point ce que ça veut dire, mais en tout cas, là, pour l'expliquer, généralement, je le mets en regard de deux autres types de lieux de rencontre, qui s'appellent l'espace public et le marché, qui sont aussi des pratiques qui prennent corps dans des lieux. Je vais parler des pratiques de l'espace public qui prennent corps dans des lieux. Vous savez, on trouve la même chose sur le marché, ce sont des pratiques. Le marché est une pratique d'échange qui prend corps dans des lieux. Des salles de marché, bien des fois. Et bien, le tiers-lieu sera quoi la même chose. C'est une pratique très singulière où on voit des personnes différentes, qui ne sont pas de la même organisation, et qui vont travailler, enfin concevoir, pas forcément travailler, c'est pas ça, mais concevoir ensemble un objet qui leur est commun, qui a propriété partagée. Quand je dis commun, c'est dans ce sens-là. Concevoir ensemble un objet qui leur est commun, qui a propriété partagée. Quand je dis commun, c'est dans ce sens-là. Le terme commun est beaucoup travaillé en ce moment. C'est cette histoire de responsabilité partagée. Ce n'est pas l'intérêt général, le commun. C'est comment un objet peut être à responsabilité partagée. Je vous renvoie vers les travaux de Elinor Armstrong, notamment. Ça va pour l'instant?
Juste avant une question, vous avez travaillé sur des cas. Européens,
oui.
Suisses, Français.
Oui, Français, Suisses, Belges, Québécois. C'est le terrain en fait que j'ai exploré. Parce que, déjà parce que mon travail s'est focalisé sur le terme, sur l'usage du terme tiers-lieu. Et c'est un terme francophone. Donc ça a permis de cibler le périmètre de recherche. Ça va pour l'instant?
Je ne suis pas sûre de bien comprendre.
La différence de recoupement entre justement une place, enfin, un espace public. Vivant et un tiers-lieu, est-ce qu'une place peut être un tiers-lieu?
Oui.
Est-ce que...
oui, c'est ça qui est intéressant. Une place
est-ce qu'un marché est un tiers-lieu?
Un marché peut le devenir. C'est ça qui est en fait le concept de tiers-lieu tel que j'envisage maintenant et qu'il a tendance à se travailler, c'est qu'il peut apparaître dans n'importe quel lieu, enfin, dans nombre de lieux. Ici, comme je vais vous montrer, c'est une forme de tiers-lieu. Les gares, maintenant, peuvent devenir un tiers-lieu. Vous savez, actuellement, en France, il y a une grosse politique sur le tiers-lieu. C'est pour ça que je vous demandais si vous connaissiez ce terme, je pense que vous connaissez ça. Il y a une grosse politique de tiers-lieu, il y a beaucoup d'acteurs qui sont mis à développer des tiers-lieux, mais des acteurs qui viennent de milieux totalement différents,
des gros promoteurs immobiliers qui proposent d'être sérieux. On a des gros acteurs des politiques publiques qui proposent d'être sérieux pour des motifs totalement différents. Et on retrouve cette sérieux, ces situations de conception collective, finalement, on peut dire, dans des gares, dans des hôtels privés, dans des places. Là, ce qui se trame en ce moment dans les réseaux que je suis, la question qui se pose, il y en a deux, finalement, c'est est-ce que la COP, l'élaboration de l'accord sur le climat lors de la COP 21 était un tiers-lieu. Okay. La deuxième, est-ce que les ronds-points des gilets jaunes actuellement sont des tiers-lieux? Donc sur les réseaux, il y a plein de débats là-dessus, est-ce que c'est des tiers-lieux, etc. Donc oui, tout lieu peut devenir tiers-lieu. Ça va pour l'instant? Okay. C'est juste, qu'est-ce que l'on y fait dedans? Et c'est cette particularité-là qui est intéressante. Comment mettre les gens en situation de faire? C'est ça qui est original, et c'est aussi ce que les systèmes d'information et les services informatiques permettent. Je vais essayer de vous montrer, OK ? Ça va. Donc, je vais vous donner deux exemples de tiers-lieux, pour le coup, qui traitent de la question que vous avez mise. Le premier, c'est l'hôtel Pasteur à Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose, l'hôtel Pasteur à Rennes ? Oui, non ?
Oui, on entend parler.
Ah bon ? Oui.
Juste le nom.
Ça va en détail, c'est juste le nom, vous allez voir en détail comment ça se passe.
Bon, on est déjà allé regarder le site avec
Mara. Le site n'est pas très explicite. C'est une initiative qui a été portée à la base par Patrick Bouchain, vous allez le savoir, qui en fait a vu en plein centre-ville de la ville de Rennes, à côté de la gare, un immense bâtiment qui était en train de tomber en désuétude. Et la ville ou la métropole, je ne sais plus trop exactement, se demander quel projet faire, comment le reconvertir, est-ce qu'on va en faire un musée, un énième musée, une énième école, etc. Et lui a dit non, ne faites pas ça, faites un chantier ouvert, et ce sont les gens, la ville, qui vont en faire quelque chose. Et il a missionné Sophie Ricard pour s'occuper de cette mutation finalement. Donc il est arrivé dans ce bâtiment, qui est un bâtiment immense en place en premier, qui est assez beau d'ailleurs, et qui est assez détaillé. Et elle a eu comme mission en 2 ans d'avoir 2 ans pour faire un projet. 2 ans pour proposer un projet à la ville. Prise de bâtiment, il n'y avait rien, elle a ouvert, une seule clé. Et puis elle est allée voir tout le monde autour du quartier, dans la ville, etc. En disant, voilà, on a un espace, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça fait 2 ans finalement que les gens viennent proposer des activités aussi diversifiées qu'il y a un laboratoire pour faire pousser des champignons. Ça, c'est un copain qui fait ça. C'est des champignons de trucs. Il y a une école de design, il y a des cours de danse, il y a un psychothérapeute qui fait des activités là-bas, il y a plein de choses. Tout ce que la ville possède de créativité ou d'innovation, de volonté d'innovation, se passe dans ce lieu-là. Et c'est à partir de là qu'elle a dessiné ce qu'allait devenir l'hôtel Pasteur. La question, les trois questions qu'elle essaie de traiter sont celles du chantier ouvert. Le concept de chantier ouvert, je pense que vous le connaissez bien mieux que moi, justement, c'est cette permanence architecturale, plusieurs universités fortes, une permanence architecturale, chantier ouvert, elle ouvre un espace des possibles, comme elle le dit, pour créer une situation, et puis en fonction des gens qui viennent, et vous allez voir qu'on fait un peu la même chose ici, en fonction des gens qui viennent, elle va donner une identité au lieu, elle va lui donner une programmation, même si elle a une tête sur la tête, si je disais le terme programmation, elle va lui donner une vie. Le lieu appartient au territoire, et le lieu devient ce que le territoire veut qu'il devienne. La deuxième question de réversibilité qui est liée à cela, elle dit toujours que si un jour il y a une catastrophe, le lieu peut être perquisitionné pour répondre à cette catastrophe. Donc en fait, en fonction de ce, comme il y a chantier ouvert, en fonction de ce qui apparaît sur le territoire, le lieu se transforme. C'est le travail par l'usage. En Rennes, c'est assez intéressant de voir comment ça vit ça. Et la troisième chose qui, pour moi, me semble plus intéressante et la plus pertinente, c'est cette question des PPPP. Je vous dis pourquoi ça me semble plus pertinent, déjà parce que ça vient d'ici, c'est cool. Ce qui est bien, c'est qu'elles se sont appropriées et puis ont incarné comme nous, c'était purement conceptuel. C'est que si on part d'un bâtiment, on en fait un chantier ouvert, à partir d'un chantier ouvert, on le laisse être apprivoisé par les gens. Par les associations, par les acteurs privés, publics, parce qu'il y a cette mixité, hein, d'usage. C'est pas que des associations, c'est pas que des... c'est une mixité. Si on travaille sur cette réversibilité, alors il faut aller plus loin, travailler sur la propriété. Donc PPPPP, ça veut dire privé, particulier, public, partenariat privé, particulier, public. D'accord ? Et donc le but, maintenant, c'est puisqu'il y a un projet qui s'est dessiné en 2 ans d'activité, puisque ce projet vise à donner une vision à long terme de ce que sera l'hôtel Pasteur, de ce que sera ce bâtiment, qui s'appelle l'hôtel, qui s'appelait l'hôtel Pasteur, comment va-t-on travailler sur à qui il appartient finalement ? Qui sont les responsables dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient uniquement à la ville ? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient uniquement à l'acteur privé qui se peint ? Non. Le but, c'est d'arriver, et ils enchaînent les réunions, ils enchaînent les travaux très expérimentaux, et je vous invite à aller voir sur le site internet, sur... Il y a plein de documents qui sont en ligne, qui sont... Alors on se bat pour qu'ils les déposent en Creative Commons. Vous allez voir, c'est un peu notre cheval de bataille dans notre service. Mais voilà, il y a un vrai travail de recherche sur la propriété du bâtiment. Et c'est intéressant étant donné le programme. Je sais que cette question-là, finalement, pourquoi j'en parle ici, c'est parce que je ne sais pas si vous connaissez la question du bâtiment à la Comédie à Genève et la reconversion du bâtiment à la Comédie. C'est des choses qui se discutent pour ce bâtiment-là à travers un projet étudiant avec l'UNIG qui souhaite reprendre le lieu mais qui ne veut pas en assumer tout le coup. Donc, l'expérience de l'hôtel Pasteur sert un peu d'influence, au moins d'orientation. Donc oui, on est d'accord, on est dans le cadre d'un tiers-lieu, par rapport à la définition que vous avez donnée, on est dans le cadre d'un tiers-lieu totalement différent, le 3DD. Initialement, il devait y avoir Frédéric Josselin qui devait venir ici pour présenter le 3DD succinctement, mais je vais le faire parce que c'est quelque chose que l'on a monté les deux. Frédéric Josselin étant le directeur de la concertation ici, du service de concertation, et moi j'ai simplement mandaté en qualité de chercheur par rapport à mes travaux sur les tiers-lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez certainement, en 2015, il y a eu cette loi sur la concertation des PLS dans le canton de Genève, et qui crée une situation un peu particulière, qui appelle à une évolution des pratiques, aussi bien des pratiques citoyennes que des pratiques professionnelles. D'accord? Et ce décalage-là, l'intuition qui me semble assez intéressante de Frédéric, c'était qu'il fallait un lieu qui incarne ça, un endroit où ça peut se faire. Maintenant, il n'avait pas d'idée très précise de ce que ce pouvait être. Il y avait simplement ce bâtiment qui est dans un bâtiment d'État, qui est en friche, et qu'il s'agit de rénover assez sommairement, et de mettre quelques outils pour dire on va travailler là-dedans. D'accord ? Ce ne sera pas un lieu d'exposition. Et donc, on a travaillé ensemble sur ce que ça pouvait être. Il est venu me voir, je lui ai dit moi, je ne sais pas ce que ce sera, et en aucun cas, je donnerai une programmation, je dirai tel service. On a laissé au tout début, en fait, on est allé voir les acteurs qui pouvaient être concernés, le premier cercle finalement. On a dit, voilà, on a ce lieu, qu'est-ce qu'on en fait ? Les gens nous ont un peu rejeté en disant, déjà, ne dites pas ce que vous allez en faire, faites-en quelque chose, puis après, vous allez dire, soyez modeste. C'est toujours ça, soyez modeste. N'en faites pas un lieu d'exposition, ne faites pas le lieu de la concertation, ne dites pas ça, soyez modeste, faites ce que vous voulez faire, et puis ensuite, ça deviendra quelque chose. Donc, on a pris ce parti-là, on a ouvert, en février l'année dernière, c'est très récent encore. Et on a simplement écrit cette petite phrase-là, ce petit texte-là, une intention, une déclaration d'intention sur la vitrine. La deuxième chose que l'on a faite, et c'est là où les services d'information commencent à apparaître, et c'est là où la pratique des tiers-lieux commence à influencer le lieu, c'est qu'on a ouvert un wiki. Peut-être que vous avez pu aller sur le site, vous avez pu voir. Voilà, le wiki du 3DD. Le wiki du 3DD, c'est un site, un petit Wikipédia, mais qui retrace point par point toute l'histoire du lieu. C'est-à-dire, c'est pas un récit, c'est pas moi qui raconte, ah, alors au début, on a fait ça. Non, c'est qu'en fait, on est parti d'un principe, j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que tout ce qui se passe ici doit être documenté sur le wiki. C'est-à-dire que le lieu est gratuit, chacun prend un genre d'usage, à condition qu'il respecte, qu'il s'insère dans les thématiques présentées ici. La seule contrepartie qu'on lui demande, c'est qu'il documente et qu'il donne de l'information sur ce qu'il a fait ici. À sa guise, selon ses possibilités, on a des trucs très confidentiels, tout le monde ne peut pas raconter sa vie. Par exemple, votre réunion de ce matin, vous n'allez pas raconter à tout le monde ce que vous avez dit, ce n'est pas le cas. Par contre, dans le wiki, il sera écrit qu'il y a eu cette réunion, etc. Et donc, on arrive en fait, en 8 mois, à une somme d'informations qui est assez importante et assez intéressante, qui permet d'avoir une visibilité complète et ouverte à tout le monde sur tout ce qui s'est passé sur 3DD. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir une vision de comment se travaille la participation et, si on prend les termes qui sont dans l'intention de base, la ville de demain et puis les nouvelles citoyennetés à Genève. En gros, à partir de là, on va commencer à élaborer des services un peu intéressants. En gros, ici, n'importe qui peut venir à partir du moment qu'il respecte ces éléments-là. Et donc, on voit plein de gens qui commencent à se croiser. Il y a plein de croisements qui se font, bien sûr, plein de croisements d'initiatives et plein de nouvelles choses qui commencent à apparaître. Je ne vais pas mettre 33 heures sur le 3DB ou pour faire la pub, ce n'est pas le cas. Mais dites-vous simplement que c'est un lieu d'exploration avec un patrimoine d'information commun qui est ce wiki. Quand je dis un patrimoine d'information commun, ça intéresse, c'est ça qui est important. C'est que toutes les informations sont en créatif commun. C'est le principe des créatifs communs, ce sont ces CC qui permettent de diffuser de la connaissance. C'est le truc de la CC by ça. Ça permet de diffuser de la connaissance sous certaines conditions. Ce qui fait que tout ce qui a été documenté ici, il y a des gens qui ont une volonté de documenter vraiment importante, qui ont une volonté de. C'est une stratégie de propager une certaine. D'acculturer les gens, en fait, et de créer des communances. En fait, tout ce qui a été fait ici peut être utilisé à l'extérieur. Et typiquement, il y a un truc qui a été fait ici qui est assez original et qui, pour moi, est une plus belle réussite, mais c'est totalement subjectif. Il y a d'autres choses qui sont merveilleuses. Je vous dis, j'ai ce qui m'intéresse, et ce qui est en train de faire un buzz monumental, je suis tout content parce que je trouve ça génial. Parce que c'est ici, parce qu'on a créé ici qu'on peut le faire. On a créé un contrat. Alors, je ne pense pas que vous soyez fan des contrats, moi je suis fan des contrats. J'aime beaucoup les contrats, je travaille sur les contrats en fait, sur des formes de règlement, sur la conception collective des règlements. Et moi j'utilise le 3DB, je suis le concierge hein, ici, hein. J'accueille les gens, mais je ne suis pas à 100% hein, là. Hein. Mais comme je sais utiliser ce genre de lieu, bah, je sais comment faire que ça profite aux travaux que je mène, typiquement. D'autres le font aussi. Moi, si je travaille sur la conception collective des règlements et je travaille sur les tiers-lieux, ben, je vais concevoir collectivement un règlement pour les tiers-lieux. Et il y a une chose qui manque aux tiers-lieux, tous les tiers-lieux que je connaisse, c'est comment faire pour que les gens documentent et partagent leurs connaissances pour qu'on puisse créer une véritable communauté et qu'on puisse arriver à faire progresser les acteurs qui viennent dans un même lieu. Vous venez ici, vous êtes chacun avec vos activités. En venant ici, vous vous trouvez sur un patrimoine d'information commun qui est censé propulser votre activité. Donc pour ça, nous, on a créé un contrat. On est en train d'élaborer un contrat avec des avocats, avec des designers, avec des managers, avec des gens du service public, avec des associatifs. C'est un contrat qu'on appelle les conditions générales de contribution, que je peux vous montrer ici, même si c'était pas prévu, mais je vais vous montrer quand même. Je vous ai dit que j'allais faire des. J'allais partir à côté. Voilà. Ah, ça ressemble à ça. Conditions générales de contribution, vous allez voir, c'est un truc qui est original, qui est très très original et assez unique. Ce document dit, en fait, et quand il sera finalisé, il va être finalisé très peu, oui, on en avait 1 novembre 2018, ce document met dans le droit ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Les gens viennent ici gratuitement, on propose une infrastructure. Par contre, ce qui se fait ici est en Creative Commons ou selon des licences libres qui sont supposées choisir. D'accord ? Ça va jusqu'à présent ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce que ça peut avoir. Si ça vous parle, pas du tout, je peux changer de sujet, partir sur autre chose. Allez-y, je vais vous présenter un document qui. Je vais vous le montrer en fait, parce que dans le cadre des concertations, elles peuvent avoir une importance. C'est pour ça que je vous dis. Parce qu'il y a effectivement des concertations qui se passent ici. Et il est possible d'utiliser, de travailler sur, de créer des couches de savoir en fait, pour faire avancer des choses rapidement, plus rapidement, et de ne pas chaque fois commencer à réinventer la route. Ok ? Arrêtez-moi. Hein ? Vous voulez pas m'arrêter ?
Je veux bien.
Allez-y.
Je vais prendre le micro pour que les collègues puissent entendre. En fait, quand je vous écoute, c'est marrant, mais ça me fait penser au SWAC à l'époque de 85 à 90 et quelques, qui était finalement dans votre définition, c'est les tiers-lieux. Si je comprends bien, il y avait un objectif de logement, mais c'est devenu des lieux en fait, où se passait un tas de choses. Et c'est amusant en fait. À mon avis, c'était des tiers-lieux selon un peu votre définition.
Oui, mais il y a plein d'études qui sont sur ce qui dit ça. Moi, ce n'est pas mon sujet, je ne sais pas d'aller creuser les codes sur les squats, mais il y a plein de tests qui se font actuellement, ce qu'on appelle des squats de tiers-lieux. Les friches industrielles reconverties en lieu de la culture, les pas de nouveaux patrimoines de l'art, ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux patrimoines de l'art, dont l'usine est un grand exemple, parce qu'il y avait eu un rapport qui était sorti international, qui présentait l'usine comme ça. Maintenant, beaucoup de personnes sont amenés à les présenter en tant que tiers-lieux. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu, et ça demande discussion. En tout cas, on parle de cette même chose-là, de cette réappropriation et cette conception collective. Et oui, les squats peuvent être des tiers-lieux. J'ai des amis qui partent actuellement en Grèce pour travailler sur les squats avec cette représentation, cette question du tiers-lieu en tête, justement pour créer du savoir, pas simplement pour le monde, mais pour aussi que les personnes puissent... comment dire ? Là, la question de la documentation, elle vient de l'informatique. Elle est très importante. En fait. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point elle est importante. Et c'est la particularité de notre époque de pouvoir travailler sur cette information grâce à l'informatique. elle vient en particulier de l'informatique. La manière dont les services informatiques et la progression extrêmement rapide de l'informatique dans le monde vient de la documentation. C'est-à-dire que les gens, pour travailler sur n'importe quel projet informatique, mettaient en commun leur savoir et le diffuser à l'extérieur. Ce qui fait que n'importe qui dans le monde pouvait se mettre dessus, et c'est toute cette histoire de l'intelligence collective. Les plus grands projets actuellement informatiques, notamment, proviennent de cette logique de patrimoine d'information commun. Linux, dont on avait certainement entendu parler, je ne suis pas un spécialiste de la tâche, je ne suis pas un informaticien qui me tape sur la tête parce que je suis plus bon de compétences que. Linux, par exemple, fonctionne comme ça. Tous vos téléphones actuellement, tous vos ordinateurs fonctionnent sur Linux. Donc la progression de l'information vient du fait que les gens sont mis en commun leur savoir de manière très très réglementée. Ce n'est pas des bénignouilles, hein, loin de là. C'est vraiment loin de là. De manière très très réglementée, mis en savoir en commun leur savoir pour pouvoir progresser et avancer très rapidement. Et je pense qu'en pas mal de disciplines, ça pourrait se faire. Et donc dans les squats, si vous voulez, l'enjeu, c'est que dans l'espace, j'ai créé un truc qui s'appelle Movilab, avec plein d'amis, on a créé un wiki il y a quelques années qui s'appelle Movilab, qui regroupe maintenant plus de 2 millions de recettes. En fait, c'est comment on fait des choses. L'idée, c'est comment on fait un fable, comment on fait un cœur, c'est-à-dire comment on fait. On documentait plein de choses. On invitait, on donnait des recettes pour que les gens puissent documenter plein de choses. Et ça permet, on le voit réellement, une progression extrêmement rapide de savoir-faire. Enfin, quand on commence à entrer dans un tiers-lieu maintenant, on n'est pas obligé de tout recommencer à zéro. Quand on veut monter un tiers-lieu, on n'est pas obligé de tout recommencer à zéro, on s'appuie sur un patrimoine d'informations. Et je vais essayer de vous montrer comment, dans le monde humaniste, moi j'essaie de le travailler. Ça va? Ok, cool. Alors la question que je me pose maintenant, une fois que Frédéric Josselin m'a rencontré, moi je n'étais pas du tout au fait des problématiques traitées. Voilà. Mais il m'a parlé de ces situations de concertation pour les plans locaux des quartiers. Je me disais, la question c'est est-ce que les situations de concertation pour les plans locaux des quartiers, pour l'élaboration des plans locaux des quartiers, sont-elles des tiers-lieux? Et la deuxième question que je me suis posée, c'est comment les services informationnels peuvent servir de support à ça? Peut-être que ça ne sera pas totalement inutile, mais en gros, où est-ce que ça intervient et comment ça intervient? Alors, je fais un petit travail, vous pouvez me contrôler, vous, en fait, vous pouvez me taper dessus, je suis d'accord, je suis désolé, je peux vous faire une bêtise. Bon, là, j'ai cartographié finalement les différentes étapes de l'élaboration du plan localisé de quartier. Je me suis fait des documents qui sont assez publics, donc vous avez certainement vu ces choses-là sur le site www.geo.ch. Mais voilà, en gros, les différentes étapes de conception des plans localisés de quartier. Vous savez déjà. Là-dedans, finalement, les étapes de concertation, qui semblent être le point crucial en fait, mais sont de concertation. Alors là, la concertation n'est pas définie, même dans la loi, dans le texte de loi, elle est très peu définie. Donc, ce qu'on va comprendre par ta participation, par la concertation, c'est le moment où on fait intervenir la population sur le plan à venir. On peut voir qu'il y a 5 temps. Effectivement, celui qui semble, par rapport à ce que j'ai pu observer, concentrer beaucoup d'attention, c'est le premier. C'est l'élaboration concertée avant l'avant-projet de PLQ. D'accord là-dessus? Vous travaillez là-dessus? Ce temps-là, ça semble attirer énormément d'attention, pourtant c'est un temps qui est assez infime. D'accord? En sachant que la concertation ou la participation n'est toujours pas définie. D'accord? Je dis ça parce que la participation d'après ce que j'ai pu observer ou les études que j'ai pu voir locales, hein, la participation en fait consiste simplement à être présent. Le niveau de participation, ce n'est pas vraiment défini, c'est comment on a des gens ensemble dans un même lieu, mais voilà, c'est pas, ils sont là. Voilà. Ok. Donc on peut voir l'élaboration, le projet, etc. Alors, ce que j'ai pu regarder, moi je me suis surtout concentré en fait sur la manière dont les urbanistes, de l'office de l'urbaniste, traitaient l'information sur les plans, sur l'élaboration des plans qualité de quartier. D'accord? Puisque c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Je dis que c'était la conception commune par rapport à l'informatique. Donc je me suis surtout concentré là-dessus, donc je suis allé regarder les textes, je suis allé dans les serveurs, je suis allé regarder vraiment tout ce qui se faisait, dans la mesure du possible. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de documents qui étaient déjà accessibles au public, et qui suffisait pour une grande partie à donner une image assez précise de ce que ça signifiait la concertation et comment l'information était traitée, comment les sacs informationnels servaient de support à cela. Et là, on voit, ben, voilà, vous connaissez ce tableau ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ouais, bon, vous voyez ce tableau qui, vous m'arrêtez si je dis bêtise, mais sert de guide, mais ne pas respecter loin de là, parce que chaque contexte est différent et qu'il s'agit pour tout un chacun de éventuellement remplir certaines de ces cases, mais en tout cas, en aucun moment, de suivre pas à pas ce processus. C'est juste, je suis juste là? Ouais, ok, cool. Voilà. Là-dedans, sur la concertation, je suis allé voir, ok, j'ai changé de terme, normalement j'utilise des termes plus conceptuels, qui seraient objet frontière pour situation de rencontre et objet intermédiaire pour support de conception. Néanmoins, voilà ce qui m'a semblé. Lorsque vous arrivez pour travailler sur l'élaboration du plan de l'État quartier, vous allez rencontrer différents acteurs de projet qui sont très diversifiés. Okay, ces acteurs sont le service d'État, la commune, etc., etc., etc. Et puis vous allez avoir différentes stratégies et différentes tactiques pour obtenir de l'information, en fait, pour travailler sur le plan et pour travailler sur le dessin. Je suis juste là, on est d'accord. Celles-ci, je les ai en fait catégorisées, voilà, dialogue, forum online, civitech. Alors j'ai mis les civitech parce que je vous assure, ça regroupe pas mal de choses, mais généralement on se trouve toujours au même point, simplement on va mettre sur un même service informatique des gens pour qu'ils nous donnent leur avis. Donc c'est des forums, après il y a des choses un peu plus élaborées, comme des Chilim en Espagne, il y en a plein, c'est pas la peine, ils ont un peu toutes les mêmes fonctionnalités, ils créent un dialogue finalement. Voilà, pour l'instant on ne sera pas à créer le dialogue, d'accord? Ok. Donc la situation de rencontre, elle va se faire voilà, par les civitech, par du présentiel, par des échanges, par des boîtes mail. Donc, ce que je vois sur les serveurs, c'est qu'il y a énormément d'échanges de mails, de courriers, des réunions 1-1, des ateliers, etc., etc. Tout ça pour travailler sur un même support, un support de conception qui sont des plans avec des dessins. Ça va pour l'instant? Je suis juste. Ok. Ce qui m'a semblé toujours, c'est que la raison de cette situation de concentration, d'accord, j'ai mis là. La raison, c'est sans se rendre compte, pardon, c'est des situations de rencontre, j'ai mis des situations de concentration, c'est d'aller chercher de l'information. C'est de la recherche d'information. Je suis, dites-moi, ça me permet de progresser aussi.
Pas que.
Pas que,
c'est pas que de la recherche d'information, c'est aussi la co-conception. Dans
certains cas. Tout de suite. Quand vous allez créer la situation de rencontre.
Ah, la première.
Oui, c'est pas la première, dans l'ensemble. C'est pour chercher de l'information.
Oui. Ça peut être travailler sur les variantes, ça peut être... Enfin, je cherche l'information dans le sens où je cherche à évaluer l'intérêt que soulève une proposition ou une autre. Dans le sens là, je cherche l'information, mais ça va... il y a une part de contribution qui se fait à des participants, au-delà de juste dire ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent
faire. Oui, justement, vous allez chercher... moi, ce que j'entends par là, c'est que vous allez chercher l'information du participant, vous allez lui faire contribuer, c'est arrivé à la prendre des choses, même par diverses stratégies. Je vais aller jusqu'au bout. L'information doit ensuite être classée. Vous pouvez classer quand vous êtes dans une situation de contribution avec ces personnes, vous pouvez classer ces informations, c'est ce que j'appelle classer. Je vais avancer. Ok, donc là, en fait, tout cela servira à travailler sur l'avant-projet. D'accord? Je suis là que vous êtes d'accord avec moi. J'adore parler de l'urbanisme, je me fais encore rire. En fait, ce que j'essaie de présenter par là, c'est quelle stratégie, comment vous utilisez l'information pour travailler sur l'avant-projet de PFQ. Avec comme visée, en fait, c'est que le produit final de la démarche, il m'a semblé en tout cas, que ce n'était pas les dessins que vous faites, mais c'était le plan, le règlement, le rapport explicatif. En gros, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu comprendre en biologie totale, c'est qu'effectivement, vous faites plein de situations de rencontre. Effectivement, il y a ce travail collectif de concertation avec des gens, de co-construction sur des dessins, etc., etc. Mais au final, il m'a semblé que l'urbanisme se trouvait seul, finalement, en face d'un plan qui est très réglementé et d'un règlement qui est très normé et qui devait faire la synthèse. D'accord ? Donc vous allez effectivement récupérer. Et non, rechercher de l'information, la classer pour pouvoir la mettre dans des cases. dans des cases, qui sont ce plan, ce règlement, avec mon rapport explicatif, vous avez expliqué la démarche, mais c'est finalement, moi, ce qui a concentré mon attention, c'est ce règlement et ce plan. D'accord ? Et il m'a semblé, enfin pas il me semblait, moi si je me trompe, que le travail que vous allez faire, c'est de créer ces situations et puis ensuite le mettre dans l'ordre pour répondre à la légende au sommaire type. C'est assez intéressant ce document-là. Vous le connaissez sans doute. C'est un document dans lequel vous devez présenter tout ce que vous êtes allé chercher. Ça prend des mois et des mois. C'est extrêmement complexe. Et vous allez devoir le mettre dans ces cases-là qui sont déjà préformatées.
C'est vrai, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait ne va pas se retrouver dedans.
Okay.
Il y a plein de choses qui vont sortir durant ces ateliers de travail, qui sont très intéressantes pour la vie du projet, mais qui ne trouveront pas nécessairement leur place dans le document. Son plan est en rapport explicatif.
Alors vous les utilisez comment ces informations?
Alors là, du coup, il faut trouver d'autres, mais il y a pas mal d'acteurs. Si vous prenez la FDI, par exemple, ici à Genève, on travaille beaucoup avec des guides d'aménagement ou des guides de formulation qui viennent compléter en fait, un cadre normé qui est assez. Ça vous décrivez bien, mais qui est bien normé, en particulier à Genève. Et qui sont conscients, typiquement, qu'il y a une part qui est écrite dans le plan de règlement, puis il y a une part qui va se construire avec les acteurs du projet dans un processus négocié.
Oui.
Et donc, il y a pas mal de choses qui sortent.
Là, comment, par exemple, puisque la finalité de la démarche, dans le cas des petits semblables qui vendent le document-là, comment vous faites le reste? Qu'est-ce que vous faites du reste?
Il y a un cas où ça marche bien, à Genève, c'est dans le cas de la FDI. Oui, parce que je laisserai compléter ceux qui connaissent bien la procédure aussi. Parce que eux, formellement, vont, en plus du plan et du règlement, vont rajouter, disons, des éléments de charte qui ont une valeur, disons, d'engagement mutuel entre les autorités publiques, les propriétaires et les futurs.
La charte a une valeur d'engagement?
Oui, mais c'est vrai que, malheureusement, oui. Disons, c'est quelque chose qui est. Dans la majorité des cas, quand on fait le PLQ, il y a juste le PLQ, et tout ce qu'on fait à côté, c'est on dit qu'on va s'engager, mais il n'y a pas de valeur formelle d'engagement.
Donc la chose qui est traitée par le droit, finalement, c'est ce document-là. Et moi, c'est ce document-là qui, je vous avoue, m'a créé beaucoup d'empathie envers votre métier. Je suis allé voir, j'ai vraiment cherché, j'ai regardé comment vous faites pour ce document-là. Comment ça marche, je ne sais pas vous spécifiquement, c'est une torture. Enfin, comment on peut arriver à vous mettre en maître des gens, à les faire passer d'une telle complexité d'informations, je pense qu'il y a un tourbillon de créativité, c'est normal, vous créez des situations pour ça, et ensuite, comment vous allez faire pour synthétiser et mettre dans ces cases-là, qui sont très restrictives. Et je pense que c'est là que l'informatique peut avoir un intérêt. C'est pour ça que je présente ça, même si j'ai peut-être fait des raccourcis avant. En fait, c'est pour vous amener vers le règlement.
Peut-être que vous allez en parler après, j'aimerais pas vous couper l'herbe sous le pied, mais il me semble que dans cette première étape de consultation, il y a quand même une partie de faire les réflexions ensemble et d'amener, de convaincre les gens que les solutions proposées sont les meilleures. Et donc de faire avec eux les pas qu'on fait, nous.
Comment ça?
Je sais pas, il faut construire une crèche, pour ce faire il faut abattre des arbres, alors tout de suite une partie de la population va dire « Ah, on abat des arbres, ça va tout mm-hmm. » et on va essayer,
c'est
théorique, de leur montrer que, ou de les amener eux-mêmes à se convaincre qu'on ne peut pas la faire ailleurs cette crèche. Ouais. Donc finalement on est un peu obligé d'abattre ces arbres et que on va trouver des moyens pour que l'on en plante ailleurs, mais que là, il n'y aura pas d'autre solution. Et alors, en tant que politicien, ce pas-là, il est hyper important. Parce que si on ne fait pas ce travail-là avant, on ne pourra jamais arriver à bout du projet. Surtout en Suisse, où on a quand même beaucoup besoin de validation de la part de la population. C'est très compliqué de mener un projet à bien si depuis le début, on n'a pas réussi à écouter les gens et à leur proposer une solution qui va réussir à convaincre leur vision du monde aussi.
C'est cette question-là en fait, que je me suis posée en découvrant et en explorant tous ces documents, c'est dans quelle mesure les gens qui participent à ces rencontres, selon différentes modalités que j'ai pu énumérer là, dans quelle mesure ils sont au courant de vos limites normatives, de ce que vous êtes obligés de faire. Dans quelle mesure Est-ce que vous avez, est-ce qu'ils sont au courant de la vie du jeu, finalement? Sans, il n'y a aucune perversion, parce que je ne suis pas un ingénieur de la liberté, je ne sais pas ça. C'est comment, est-ce qu'ils savent, en quoi vous vous insérez? Est-ce qu'ils connaissent ce document-là? Pardon, je sais plus. Là. Non, ils n'en ont pas conscience, finalement. Donc, l'objet final, pardon, l'objet final, ils ne le voient pas. Est-ce qu'ils le savent, ce règlement? Est-ce qu'ils en ont conscience de tout ça?
Est-ce qu'ils le voient de manière inégale, on peut dire, et puis ils n'ont certainement pas conscience non plus de tout. Est-ce que ce document-là, l'air de vous effrayer, c'est vrai qu'il est un peu effrayant, mais il peut précéder par d'autres documents plus effrayants encore, qui dans notre contexte d'intervention. Et puis, les personnes avec qui on travaille sont généralement pas conscientes du contexte relativement normé dans lequel on évolue.
Bien sûr.
Donc, il y a un travail important qui est, on peut toujours aller au démarrage de ces processus-là, qui est de cadrer ce qui est de l'ordre du négociable et ce qui est de l'ordre de l'acquis à ce stade et qui est typiquement. Je voulais juste dire, vous avez dit l'importance de l'informatique, vous avez l'air intéressé par tous les aspects de l'actualisation, vous aviez parlé de ce règlement participatif. Peut-être qu'il y a un axe de travail qui pourrait être intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'en fait les boîtes sont faites comme ça? C'est parce que les juristes sont très inquiets qu'il y ait une marge d'interprétation qui soit trop large, qui subsiste dans ce genre de document-là. Donc moi, c'est de coincer les trucs le plus serrés possible. Comme ça, après ça, les processus d'approbation que vous allez construire sont en fait la case au million. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a moyen de travailler sur une part, disons, de vous, ça je ne connais pas votre travail, mais vous avez brièvement passé sur le règlement de cet espace-ci, de voir s'il y avait moyen d'imaginer, peut-être dans un autre monde, hein, je ne sais pas, mais disons, de cette idée, qu'on puisse réussir à construire les éléments réglementaires qui sont pertinents pour l'objet sur lequel on travaille. Et peut-être les écouter ceux qui sont moins, et puis laisser une marge là où il est utile.
Ben c'est, alors ce point spécifique n'est pas forcément celui que j'ai en tête, puisque c'est notre expérience, mais en tout cas, la conception collective de règlement, c'est exactement ce que je fais, ça rentre en compte de cela. Et ce thème, l'enjeu final, c'est que c'est d'arriver à travailler sur un service qui permet de prendre en compte ça, comme l'élaboration de ce règlement. Parce que finalement, c'est un peu le même.
Je ne sais pas si c'est le cas à Genève, mais en tout cas dans le canton de Vaud, au-delà de ce document-là formalisé, alors peut-être un peu moins dans le canton de Vaud, parce qu'on a un peu de marge de manœuvre, mais il y a aussi tous les aspects conventionnels avec les propriétaires. Là, on peut aussi mettre beaucoup de choses par rapport à la mise en œuvre des projets, les accords qu'on va avoir avec les propriétaires, en termes de financement d'espace public, en termes de mise en œuvre. Et c'est un levier aussi assez important et qui est peut-être un peu moins formalisé, puisque c'est parler de contrat, c'est vraiment un contrat privé entre une collectivité, enfin une commune et les propriétaires des terrains.
D'accord.
Et ça, c'est quand même un outil qu'on utilise.
Et ça, à quel moment ça intervient? Parce que là dans l'enquête.
C'est avant l'enquête.
Oui, là, c'est le centre.
C'est dans votre processus, c'est avant l'enquête publique. En fait, c'est là le moment, puisqu'on va donner des droits à des propriétaires privés.
D'accord. Donc en fait, dans la question, parce que je vais venir à l'enquête technique, en fait, dans l'enquête technique, il y a cette question.
Non, c'est l'enquête publique.
C'est l'enquête publique. C'est ça même à Genève, ça sera la procédure d'opposition, puisqu'on a deux
l'idée de dire, c'est que si on a des accords qui sont négociés avec les propriétaires, c'est important qu'ils soient prêts avant l'enquête publique, parce que c'est quelque part la garantie que certains engagements vont pouvoir effectivement être
pris. Et ces accords sont ajoutés au dossier, en fait,
au fur et à mesure. C'est des conventions de droit privé. Ce sont des conventions de droit privé, donc elles ne sont pas du même niveau.
Mais typiquement dans le canton de Vaud, c'est souvent des pièces qui sont, ça passe devant un, ça passe pas à Genève, hein, mais dans le canton de Vaud, ça passe devant le conseil communal, donc il y a le législatif communal, et souvent le législatif communal est celui qui a, donc, a le pouvoir d'adoption du plan, et ces aspects sont très importants, puisque ça va définir notamment qui va payer les espaces publics, qui va payer peut-être un équipement de quartier, ce genre de choses. Donc, c'est aussi un outil qu'on utilise.
Donc ça se passerait juste en
temps avec lui. Il faut que ça soit signé le premier jour de l'enquête, idéalement.
Ça, à Genève, ça n'est pas courant, d'accord.
Je ne sais pas.
Il y a aussi des conventions qui sont en
place. Je ne sais pas à quel moment à Genève.
Elles vont se passer tout le long, puis elles vont être formellement adoptées avant l'adoption du calcul.
D'accord. C'est pendant tout le processus, en fait, il n'y a pas les. Ok, très bien. Ok. Ça va? Fini? vais essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, moi, ce que je disais, c'est que moi, je suis resté bien bloqué sur cette chose-là, sur ce document-là, avec ces petites cases, stabilité en jaune, sur le dossier, sur les informations, où il fallait remplir les cases qui étaient complétées par les X6, adaptées quelque peu. Donc, en tout cas, avec un document normatif très précis, et je me demandais justement si les participants avaient connaissance du document. Donc, en gros, si on parle d'informatique, j'ai aussi à regarder comment vous travaillez ces documents-là, comment les urbanistes et les urbanistes travaillaient ces documents. D'accord ? Et donc, ce que j'ai pu voir, c'est que ce document réglementaire, il est travaillé à partir d'un logiciel, d'accord ? Un logiciel de texte de type Word, assez basique, et d'échange mail, ok, avec d'autres services de l'Office de l'urbanisme et d'autres services. De l'urbaniste, et puis certainement, mais ça je n'ai pas l'accès, mais c'est pas sûr, des rencontres, des yeux, des bureaux, des ascenseurs, ça c'est ça. Mais si on je veux sûr essayer, en fait, l'exercice un peu de regarder comment le texte se déroule, comment vous travaillez le texte, quand vous êtes obligé d'objectiver ce document-là, mais vous allez voir, c'est assez sommaire finalement, et c'est assez compliqué. Puisque vous devez écrire, si je ne me trompe pas, faire la synthèse de toute cette complexité-là dans un texte réglementaire, qui subit des modifications par des tiers, ce sont des juristes, si je ne me trompe pas, et ensuite on se retrouve avec des textes de type Word qui sont barrés en rouge avec une suite de modifications qui est très très difficile non seulement de faire le suivi, mais aussi c'est très difficile de travailler comme ça. Vous avez déjà il y a d'autres savoirs actuellement, il y a des choses pertinentes pour travailler collectivement sur un texte. C'est assez basique de travailler sur Word, on se retrouvait un peu comme sur des dictées ou sur des travaux universitaires assez sommaires. On ne peut pas dire que toutes les modifications ne sont pas dans un historique, tous les changements ne sont pas suivis, toutes les contributions ne peuvent pas être lisibles, et finalement, c'est pas mal, il me semble, c'est quand même pas mal d'informations qui partent à la trappe, et donc de perdre du temps et de perdre de connaissances. Voilà, c'est un peu ce que ce schéma a voulu montrer. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est est-ce que le numérique peut supporter la conception collective du plan local du quartier, notamment l'aménagement. Pour le plan, c'est encore une autre question, bien que ce soit lié et que les travaux actuellement des cités, notamment, portent cette question, mais si on arrive à travailler sur la conception collective du plan local du quartier, du règlement pour le plan local du quartier, il est fort probable que l'on puisse travailler collectivement sur tout autre texte normatif, et c'est ce que vous sembliez vouloir dire tout à l'heure. Donc tout autre texte normatif avec comme visée peut-être le travail collectif sur les projets. Oui.
Là, on parle de deux choses différentes, donc la participation ouverte, c'est grandement de concertation, et puis le travail, parce que finalement, ces règlements, quand on est au travail, quand on est écrit, il va y avoir un aller-retour avec les chefs de projet, avec les différents services de l'État, peut-être avec les propriétaires de l'État. Et voilà, là, le texte ne passe pas dans les mains d'un cercle plus large. Donc, est-ce que vous travaillez sur l'ambition de peut-être réussir à intégrer plus d'acteurs dans ce développement ? C'est ça ?
L'ambition, c'est d'avoir plus d'ambition générale, c'est d'avoir plus d'acteurs dans le développement, mais c'est quand même, on arrive à des niveaux de compétence. Là-dessus, qui ne permet pas à tout à chacun de travailler sur ces documents. Mais c'est juste que les gens compétents puissent travailler dessus de manière beaucoup plus facile. Comme je vous dis, elle n'est pas forcément définie, la participation dans ce processus. Elle est la concertation non plus. Et c'est une des grandes discussions qu'on a notamment avec Frédéric Josselin, puisque les gens sont assez, les urbanistes sont assez, pas en difficulté, mais c'est pas simple de mettre la concertation pour travailler là-dessus. Mais la concertation, elle apparaît partout. C'est ce que j'ai essayé de montrer là. Elle apparaît à tout moment. À partir du moment où plusieurs acteurs différents, d'institutions différentes se mettent à travailler sur un même objet, le processus est quasiment le même. Bien sûr qu'il y a moins d'acculturation, mais ça reste de la confrontation. On est d'accord là-dessus. Si on arrive à faire entrer plein de personnes compétentes venant d'institutions différentes, avec des enjeux différents, des intérêts différents sur un même objet réglementaire, il est fort probable qu'on puisse s'ouvrir au maximum. Il est bien évident qu'à ce moment-là, ce serait assez casse-gueule de l'ouvrir tout de suite à tout le monde et d'envisager qu'on fait le règlement, vous l'ouvrez et puis tout à chacun puisse intervenir. Je pense qu'il faut accepter aussi que. Moi, mon idée simplement, c'est que
Vous savez, sur Wikipédia, par exemple, il y a un exemple de participation et de contribution sur l'utilisation d'un objet textuel. Tout le monde ne contribue pas, tout le monde peut travailler sur le texte. Mais il y a un niveau de compétence qui fait que les gens vont être assez modestes, je reprends ce terme-là, assez modestes sur le rapport. Et puis, en plus, il y a la régulation entre contributeurs qui se fait. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut arriver à la même chose. C'est bon ? Ok. Combien de temps il passe ?
C'est 2 minutes.
1 heure et demie ?
Oui.
Ok. Alors, moi, ce qu'on m'a suggéré, en fait, c'est de tester, en fait, et de regarder comment cette problématique-là pouvait être abordée dans le cadre d'enquêtes techniques. Parce que l'enquête technique, ça me semble être encore autre chose, encore un niveau complexité qui est encore une étape au-dessus. Alors je suis allé voir dans les documents, précisément dans les documents, je n'ai pas fait de terrain, je ne suis pas resté près des urbanistes pour voir comment vous voyez, je suis simplement allé voir dans les documents et j'ai fait le suivi. Il y a certainement des grandes différences que je faisais sur cette vidéo-là. À part le c'est. Je suis très évoqué, c'est. Courage, les gars. On se retrouve dans un truc comme ça. Il me semble qu'on se retrouve dans un truc comme ça.
Oui.
Ouais, c'est ça. Alors je ne sais pas, c'est ce que je n'ai pas réussi à déceler précisément. J'ai pas cherché à faire des liens très précis parce que ce n'était pas possible, à moins d'arriver à un niveau de complexité, d'aller très loin de moi. Je vais certainement m'y atteler, mais à ce moment-là, ce n'était pas très intéressant. J'ai essayé de voir comment vous faisiez. Mais est-ce que je me trompe si vous passez par des échanges de courrier ? Il y a du mail, du courrier, c'est ça ?
Okay. Il y a un suivi quand même.
Un suivi sur un Excel.
Ah oui.
C'est ça, c'est là, c'est les décisions, description des modifications, prise en compte, commentaire. Donc c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, vous envoyez l'avant-projet à tous ces services-là, par courrier, ou par mail.
C'est
le
chef de projet
de
l'État qui fait la transmission et qui est le vérificateur. Nous, on reçoit le tableau. Il y a déjà le tri qui a été fait et la décision qui a été faite par le chef de projet.
D'accord. Donc, vous recevez directement avec l'Excel, la chaîne de projet, vous recevez directement avec l'Excel, avec toutes les modifications, les demandes de modifications, etc., etc., etc.
Et déjà, si ça a été accepté ou pas,
c'est non. Qui accepte ou pas ?
L'Office
de l'urbanisme. L'Office de l'urbanisme. Donc, on est à très très loin déjà de la participation du début. D'accord. C'est là, hein.
C'est pas méchant. Hein. C'est une société d'intérêt entre les gouvernements, les services. Un domaine de compétences très spécialisé, et deux, on s'est mis ensemble, doivent faire un peu d'intérêt de ce qui fait ça.
Et donc, vous arrivez avec des ordres, des décisions déjà faites. Et à partir de ces décisions déjà faites, qui sont faites sur un tableur, etc., c'est bien ça, hein, okay.
Ou dans un courrier, hein, c'est
évident. Ou dans un courrier, j'ai vu le courrier, c'est beau, ça, je pensais que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de courriers. Mais s'il y a un courrier, ensuite, vous allez mettre ça sur un tableur, etc. On se retrouve donc au final avec un tableau Excel qui est assez complexe.
Non, c'est des
échanges
en question de
courrier. C'est des
échanges
en
courrier, donc. Ouais. Ça dépend des comptes. Hein.
D'accord. Ici, c'est
un tableau Excel. À Genève, c'est un tableau
Excel. Et à Lausanne ?
On défend fait des petites notes de synthèse après. C'est un courrier,
ouais. Et donc, vous avez toutes ces informations en tête ? Déjà, vous avez déjà fait une super synthèse avant, donc là, vous devez faire encore, vous devez retravailler en fonction de toutes les.
Il n'y a aucun
doute. Donc, ce n'est
pas les mêmes. C'est un autre niveau de concertation. Oui. C'est d'ailleurs aussi la concertation.
Bien sûr, mais c'est un peu ça.
Là, c'est entre des services techniques sur base de la mise en application d'un cadre réglementaire dont ils sont chargés de la défense.
Oui, mais ils font des recommandations, mais c'est vous qui êtes chargé ensuite de reformuler ça, de resynthétiser une troisième fois.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le même public. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans la phase initiale. Participation de tous les groupes d'intérêt que vous avez listés avant. Là, on est dans une logique. Tous ces services, ils sont censés se prononcer sur la légalité de ce qui est inscrit dans le règlement. Et donc là, c'est aussi une forme de négociation qui se fait, qui se fait sur une base de d'intérêt entre différents textes.
Oui, c'est ça. Et une fois que vous avez toutes ces informations.
Ah oui, non, bien sûr, après, quand même.
Vous retournez sur le document le premier, là, magnifique, celui-là.
Oui, c'est bien sûr.
Donc vous rajoutez des petits tirets rouges là, vous refaites du tiret rouge en rouge, des modifications.
de manière asynchrone, d'accord. C'est ça, c'est important d'écouter
avec les services qui ne sont pas d'accord.
Voilà, avec les juristes de l'office d'urbanisme qui vous font des recommandations. Il y a aussi une histoire de temporalité, c'est pas simplement l'intervention sur le projet, mais c'est aussi la manière dont vous présentez, toujours à partir d'un logiciel de traitement de texte, etc. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que je me trompe si je me dis que c'est lui, vous arrivez avec un document que vous tentez comme le règlement, avec pavé en rouge rayé, etc.
Ce qu'il trouve un petit peu dans vos interventions, vous avez dit, ce qui est compliqué, ce n'est pas qu'on travaille sur Word. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre tous ces gens d'accord. Le fait qu'en plus, après ça, ça vient de manière différente, ça ne rend peut-être pas les choses encore plus simples, mais c'est plutôt c'est le processus qui est compliqué.
Mais je suis d'accord. Après, je parle d'une perspective où je me dis, mais comment les services informationnels peuvent faciliter ça? Donc oui, a priori, vous utilisez Word, parce que c'est le service qui vous permet, donc vous utilisez les fonctionnalités de Word, et vous avez simplement une visibilité sur la complexité, de Word vous semble anecdotique. Pourtant, si je vous dis par exemple pour Google vous facilite vos recherches.
On
utilise
la plateforme
de Google. Vous utilisez Google Drive entre vous. Je ne pensais pas à Google Drive, je pensais à Google. C'est comment en fait, ok, vous utilisez un service, il y en a d'autres, hein, il y a quelques services existants qui ne sont pas forcément mieux. Hein, c'est pour ça que je vous demande. Vous utilisez un service, c'est la réflexion, c'est comment on peut travailler et élaborer un service ou penser à un service qui propulse ça, qui permet de. Cette situation, ce n'est pas de la vôtre. Vous, c'est particulier, elle est particulièrement probante. C'est pour ça qu'elle est intéressante à travailler. Bon, les législateurs qui travaillent sur un texte de loi sont dans des situations un peu similaires, on est bien d'accord. Et c'est à partir de votre exemple, comment on peut penser, les scientifiques sont dans des situations un peu similaires, c'est pour ça que je vous interpelle, c'est à partir de votre exemple, comment on peut penser et commencer à travailler sur des services informationnels qui facilitent ça, qui propulsent ça, quelles fonctionnalités, à quoi ça ressemble. D'accord. Donc voilà, parce que pour synthétiser, ce que je vous ai montré, c'est que pour l'élaboration, etc., on se retrouve avec des situations on se retrouve avec des logiciels de traitement de texte, des documents de texte, des travaux qui sont sur des documents de texte, de type Word, des tableurs, etc., pour tout ce genre d'usage, préavis, décision, etc. D'accord. Quelle typologie de service existe actuellement, j'ai mis au parce que je ne veux pas vous montrer la solution, parce que je n'ai pas de solution. D'accord. Hein, bon. Donc, quelle typologie de service? Visiblement, vous utilisez Google Drive. Mon cœur de passionné des communs et des libristes, ça me souffre. Parce qu'il y a des dangers sur la propriété intellectuelle. Je vous dis ça, pas que pour vous, mais des grands risques sur la propriété intellectuelle, notamment sur la plateforme. Je pense que vous le savez tous. Et voilà les types de services qui existent. On peut commenter, on peut suivre un historique sur certains, pas tous, d'accord. Quand je dis historique, c'est typiquement sur Wikipédia, sur Wiki, Wiki 3DB, bon, c'est un peu, je crois que sur Google Drive le permet aussi. Chaque modification, on peut voir, on peut suivre chaque modification. On peut suivre qui est l'auteur de chaque modification et revenir à la modification, ce qui fait qu'on a surtout avec un suivi qui est assez important, ça facilite assez le travail. Donc, je sais que quand je travaille sur mon Wiki, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, de pouvoir voir d'où viennent les choses, pas avoir une lisibilité. La synchronicité aussi, c'est important. Tous ceux qui ne le font pas, quand je dis synchronicité, c'est la capacité de travailler en même temps sur le même document. Quand vous travaillez sur Word avec des juristes, etc., c'est des ping-pong. C'est des ping-pong. Déjà, en termes de temps, je pense que c'est conséquent. Et puis, un suivi de modifications, etc. Bon, ben, j'ai fini. Je vais vous dire juste quelle solution informatique en fait, se profile et semble être la plus appropriée comme base de travail pour ce genre de problème qui est le vôtre, comme je l'ai dit, c'est aussi celle de pas mal d'acteurs qui travaillent sur des textes réglementaires qui nécessitent beaucoup d'acteurs dessus. Cette question sur laquelle vous êtes confronté, finalement, c'est celle que les scientifiques dans les travaux de publication se retrouvent. En fait, ce qu'on retrouve. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on travaille sur un texte scientifique, une publication scientifique, on arrive avec des résultats, d'accord. Et puis, il n'est à aucun moment possible d'aller creuser dans ces résultats, d'aller creuser sur comment s'est construit le résultat. Oui, il y a l'explication de la méthode, mais il n'y a pas de différentes couches. Ce qui est intéressant avec ce genre de service-là, et c'est typiquement ce que moi je travaille actuellement sur, c'est à partir de ce genre de service que je travaille sur la question du texte réglementaire, c'est comment créer différentes couches justement qui permettent de créer des dialogues sur chaque couche. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, sur un graphique scientifique, où on donne le résultat d'une étude avec 15 millions de données, comment pouvoir rentrer dans chacune des données et puis potentiellement les réutiliser. Et en fait, c'est ces différentes strates de connaissances, finalement, et la capacité de se promener dans ces différentes strates de connaissances qui semblent être une des opportunités, une des projections pour traiter, et je vais vous donner juste un élément, beaucoup plus, mais pour traiter la question de l'élaboration du règlement et notamment de véhicules. En fait, simplement, ce que je voulais dire, je vais conclure et je vous invite à regarder là-dessus. Je ne suis pas un informaticien, donc je ne peux pas vous décrire comment fonctionne ce véhicule, mais c'est juste vous alerter, en fait, juste vous poser la question. Okay. Comment faire travailler, comment l'informatique a beaucoup évolué. Vous connaissez la question de l'intelligence artificielle. Okay. Comment utiliser cela pour ce que vous traitez? Comment ça peut propulser votre activité? Comment ça peut permettre de faciliter l'élaboration de règlements? Comment ça peut permettre la conception collective du début, au tout début, lorsque vous travaillez avec la population, jusqu'à. Et ce que je vous invite, c'est vraiment de prendre au sérieux cette question d'information, puisque sinon, c'est peut-être certainement un retard qu'on prend à chaque fois que l'on travaille là-dessus. Voilà. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce que je vous ai présenté, finalement, c'était drôle, c'est que cette question de conception collective du règlement, je commence à peine à travailler, je travaille avec le service là-haut, notamment. Et j'ai une thèse qui est sortie il y a peu de temps, vous avez peut-être entendu parler sur la Smart City entre Singapour et Genève. C'est mon but, cette thèse. Elle a été présentée ici, je n'en ai pas trop entendu. Comment ça s'appelle?
C'est la
séance,
c'est une heure, tu nous as donné un article sur le temps,
c'était. Mmh. C'était l'article sur le temps, et puis j'ai une réponse de Sylvain qui a été sur son. Et elle présente en fait les différents niveaux, comment l'informatique est utilisée. Et elle est assez critique là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas énormément. Je parle, il y a beaucoup de choses, mais la pertinence reste par rapport au niveau des services qui existent dans le monde, pour la conception collective, ça reste assez limité. Et à Singapour, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, et c'est intéressant de voir que de manière synchrone, à Genève actuellement, il y a quelque chose qui se fait un peu la même chose avec le référentiel unique de projet. Et c'est là-dessus que ça devrait se travailler, je pense.
Je vais suivre avec le référentiel
unique pour les projets urbains. Bref. Voilà. J'ai peut-être des questions. J'ai essayé de tout parcourir. Certainement, j'ai eu des trous. La suite, donc, c'est ça. Pour moi, en tout cas, la suite, c'est ça. Arriver à modéliser un service informatique qui permet ces choses-là. J'ai tout le GTB, on a pas mal d'éléments pour le faire. Et voilà.
Peut-être prendre le micro pour les autres. Merci pour votre présentation. Moi, ça fait écho à une réflexion qui est actuellement en cours dans Corps Nouveau, à laquelle on a été invité, disons, à participer sur la nouvelle version du plan directeur cantonal, où il y a eu un constat, disons, que le plan directeur cantonal dans la situation, dans la forme dans laquelle il se présente, est un outil qui est perçu comme particulièrement idéaliste, en tout cas par la majorité des utilisateurs. Et donc, il se pose la question, pas seulement, il y a d'autres aspects sur le contenu qui sont idéalistes, mais disons, sur la forme, ils ont mené un jeu de réflexion pour essayer de savoir comment est-ce que disons, la forme pourrait être adaptée, notamment en utilisant des plateformes informatiques qui permettent c'est de mettre en relation ce qui se dit dans le plan directeur cantonal par rapport à d'autres corpus législatifs qui, évidemment, participent à l'écoute. Et donc, avec cette idée de dire, je peux zoomer sur le territoire et au fur et à mesure, j'ai des informations nouvelles qui arrivent, je peux cliquer sur un diagramme et je sais que ce machin-là m'envoie telle loi qui parle des dossiers, etc. Le sujet, il est hyper intéressant, on a vu qu'il soulevait pas mal d'enthousiasme de la part des utilisateurs. Par contre, des juristes qui participaient à cette réflexion disaient, oui, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier, à un moment, il faut bien comprendre quand on a par exemple, il est approuvé par le Grand Conseil. Le Grand Conseil va voter un texte, il vote pas un site web.
Oui.
Et jusqu'où il vote dans ce site web, sur quoi, quelle est la part, disons, qui est réellement qui fait l'objet d'une opposabilité ou pas. Il y a des parts en plus de. Enfin, je suis désolé, je vais être un petit peu technique, mais il y a des choses qui sont opposables tiers, ou des choses qui ont un impact sur les propriétés privées, d'autres qui sont des objectifs et des principes qui lient les autorités entre elles, mais pas les tiers. Mm-hmm. Et du coup, on a quand même un contexte législatif dans lequel on évolue, qui fait que, autant moi je vois énormément l'intérêt de commencer à mettre en lien toutes ces choses les unes par rapport aux autres, mais à la fin, il y a une question de clarté de qu'est-ce qui est opposable ou non, qu'est-ce qui finalement m'impacte de manière absolue, et d'autres qui sont de l'ordre du principe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne sais pas très bien comment résoudre encore cette question.
Mais en fait, est-ce que je n'ai pas forcément une réponse parfaite en tout cas. C'est pour ça que je bloque, et en informatique, on bloque souvent sur le résultat final, mais ce qui est opposable au tiers, c'est le document final. La question, c'est comment toutes les fonctionnalités que vous avez énumérées peuvent permettre, faciliter l'élaboration du résultat final qui est le plan de règlement. C'est ça qui est opposable au tiers, c'est le résultat final. Donc après, il faut trouver comment on détermine, ok, là c'est fini. C'est peut-être ça la question, c'est comment on détermine que le résultat final, qui juge que c'est terminé? Est-ce qu'il y a une personne qui se dit, ou est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est... Vous voyez, il y a une question...
Il y a un certain nombre de formes,
il y a une question de temporalité.
Oui, mais vraiment, il y a des
bonnes.
Mais vraiment, je n'attends pas la réponse. Non, mais je vois
votre question, c'est à quel moment on arrête le projet, finalement. Ça, c'est une des particularités de votre activité aussi. À partir de quel moment on dit stop, c'est fini, ça va se faire. Et c'est vrai que c'est une chose qui va se déterminer, mais l'essentiel, c'est d'utiliser la force de l'information justement pour propulser ces choses-là, pour mettre le plus d'intelligence possible jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment de synthèse, et faciliter votre travail aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi aussi en total, quand je regarde le travail de synthèse, le travail de synthèse que vous devez faire, mes frères également. Et pour vous dire, il y a une structure qui s'appelle Open Source Politique, que je vous invite à voir, qui actuellement fait un travail précisément sur les concertations en journalisme, qui utilise un logiciel d'étude de langage, qui s'appelle TAL. Je le dis, j'ai rendez-vous avec des gens qui travaillent dessus aussi, justement essaye d'aider à la synthèse, d'aider les journalistes à la synthèse en faisant du verbatim. Ils sont présents dans les réunions, faire ce peu, ils essaient de rapporter le maximum de rapports, de discussions, etc., etc. Et puis à partir d'une analyse de langage, ils proposent des éléments de synthèse qui permettent non seulement d'avoir un suivi, mais aussi aux acteurs qui doivent faire la synthèse, de s'appuyer sur non pas simplement leur goût ou leur instinct, qui est super important, mais aussi sur des données tangibles, des données objectives. Et ce genre de choses, non pas mon département précisément, mais il y a un département qui fait ça très bien aussi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bah, on ne réfléchit pas spontanément, on ne pense pas spontanément. On se dit, tiens, moi je vais chercher ce truc-là. Pas simplement les gadgets de la Smart City. Il y a derrière tout le monde, après.
Non, moi j'ai une question, en fait, je crois que je n'ai pas bien compris ce que vous avez parlé d'abord du tiers-lieu, et puis après donc, de ce nouvel outil de concertation. Enfin, vous avez questionné cet outil de concertation par la dynamique, mais finalement, est-ce que pour vous, cet outil devient tiers-lieu ou enfin,
c'est comment permettre la conception collective. L'outil permet la conception collective, donc permet le tiers-lieu, facilite la situation. Si le tiers-lieu, c'est la rencontre de gens différents qui vont travailler sur un objet commun, concevoir un objet commun, une orientation commune, le service, quel service pour permettre cette conception
de la ville. Parce que disons, on peut produire de la ville sans produire du tiers-lieu aussi.
Probablement encore. Certainement, j'aimerais bien comprendre ce que vous voulez. J'en suis persuadé, mais
certaines parties de la ville sont peut-être produites sans même avoir la volonté de créer du tiers-lieu. Donc, c'est pour ça que je
suis sûr
de comprendre bien entre. Mais je crois que c'est
bon. Ça va. Comment on peut concevoir collectivement des choses alors qu'on a des intérêts totalement divergents et qu'on travaille sur. C'est vraiment ça tout à l'heure, je vous disais que je suis dans une science, je travaille dans un domaine qui est la science des services. Elle pose typiquement cette question. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent sur le tiers-lieu dans les services. Le tiers-lieu pour les services. Justement, ils essaient de modeler, moi, d'une certaine manière, c'est aussi ce que je fais, mais eux, c'est vraiment précisément ça, comment on modélise précisément un tiers-lieu pour l'élaboration d'un service, puisque c'est naturellement ce que l'urbanisme permet d'urbaniser.
Après, le job, c'est la même chose. Hein. Il me semble que c'est la même chose. Donc, comment cette réflexion-là peut permettre de. Ce concept-là peut permettre de propulser votre travail.
Oui, j'ai. Je vais chercher le micro. Attention, je vais. J'ai l'impression que la conclusion de votre présentation, c'est on pourrait, à travers un outil, améliorer la concertation et donc que les gens s'approprient plus le projet. Et en fait, je me demande si j'ai l'impression qu'en tant que quand on travaille dans la région des territoires, on a accès à beaucoup de données déjà. Les cités sont quand même bien fournies et les données sont assez publiques, pas toujours aussi manipulables qu'on aimerait, mais quand même assez publiques. Et j'ai l'impression que le problème, c'est plutôt la pesée d'intérêt. Que même si on a tous accès aux mêmes données, au final, le problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur quelle valeur elles ont. Moi, je veux garder les arbres, celui d'à côté, il veut construire des crèches. Donc, c'est pas forcément le problème d'accès à l'information, c'est la valeur qu'on associe à l'information qu'on a. Et est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut être résolu avec un outil de concertation? Ou est-ce qu'on doit se résoudre que c'est pas faisable?
Non, je sais que ça. Une chose est sûre, c'est que ça. Bah, si c'est vérifié, ça peut faciliter la conversation. Il me semble que la plus intéressante passe par la conversation et la délibération, si je ne me trompe pas. Il y avait énormément de services pour cela. Je vous ai énuméré le Civic Tech tout à l'heure. Sont des outils qui facilitent la délibération. Et les besoins d'intérêt sont typiquement une situation de délibération. Donc oui, je pense. Oui. Et quand je vous parlais tout à l'heure de parler des données, etc., des outils d'analyse des données qui peuvent faire ressortir des valeurs objectives pour la délibération. Mais c'est à ce niveau-là que ça se situe. C'est comment on va étudier les données pour pouvoir faciliter.
Est-ce qu'il y a des valeurs objectives?
Donc en tout cas, ça peut donner, je n'ai pas dit qu'il y avait des valeurs objectives, a priori comme ça, il n'y en a pas, mais ça peut créer l'analyse de données peut arriver à des données objectives qui facilitent la délibération. C'est à ce niveau-là, on parle de la même chose.
Ça oui, mais j'ai l'impression que le problème est lié.
L'informatique ne résoudra pas les problèmes de discussion, hein, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, par contre, et c'est pour ça que je parle du texte de mon. Je faisais le lien, je parle du tiers-lieu et je parle de l'écriture du règlement, c'est qu'il me semble que dans beaucoup de situations, et peut-être dans les besoins d'intérêt, je ne sais pas, mais dans beaucoup de situations, les délibérations peuvent être facilitées parce qu'on met les gens en situation de faire et pas simplement en situation de discussion. Et ça se vérifie dans pas mal de situations de conception. Dans celle que vous traitez, je ne la connais pas particulièrement, mais très difficilement me prononcer, mais c'est justement sortir de cette question de délibération où l'ego intervient parfois, peut-être pas dans le cas, mais en tout cas dans certaines situations, pour mettre sur l'ouvrage directement, et le texte est un bon exemple, parce que la synthèse que vous faites, vous êtes obligé de faire, réduit parfois les effets, je pense que vous faites des présupposés que vous aviez, qui soudainement, parce que vous êtes obligé de le mettre dans un cadre normatif, bah, tombe, et je me demande si dans mettre les gens en situation de travail plutôt dans les pays d'intérêt ne permettrait pas aussi de résoudre tout de suite certaines situations de délibération parce que il y a une norme respectée où il y a des choses qui. Et probablement ça c'est aussi valable dans les situations de tout début, de concertation tout début avec la population. Peut-être que les Nainzegger, cette présence-là, s'il avait en face d'eux. La finalité objective de tout le travail et qu'on le mette en situation, peut-être, je ne sais pas, cette supposition, mais elle était facile. En tout cas, je suis persuadé de ça, je suis sûr que ça réduirait les égos. Parce qu'on les met en situation de travail. Ça, c'est.
Ça, ce que vous décrivez, on le fait beaucoup, à travers précisément des processus où on est tous ensemble autour d'une table à dessiner quelque chose, des ateliers, etc. Ça me fait rebondir à la question suivante, qui est, ok, on peut plus participer à travers cette plateforme. Une question que je me pose, et je ne sais juste pas comment on fait. Il y a quand même un moment, un système de modération par rapport aux commentaires dans cette plateforme. Donc, il y a un certain nombre de gens qui vont intervenir. On a souvent un problème avec des groupes qui sont déséquilibrés en face des gens sous tout, ou avoir une disproportion entre le nombre de personnes qui sont, par exemple, opposées au projet par principe, parce que c'est des voisins, je sais rien. Et donc nous, on doit faire des efforts, on fait des efforts très importants en bureau pour essayer de constituer des groupes de travail où il y a une question d'équilibre des forces en présence. Et puis ça, on fait en direct, hein, sous forme de dialogue. Maintenant, sur la question de la contribution à travers notre groupe, comment ça marche? Parce que moi, comme vous le décrivez, j'ai l'impression que c'est un peu les commentaires comme on a sous les articles dans les quotidiens, et puis alors ça part dans le monde. Donc,
le service que je présente est un service qui n'existe pas, qui est modélisé.
Non, mais
on se rapporte à des choses, comment ça pourrait marcher? On se rapporte à des choses qui disent c'est le meilleur exemple, finalement, pour répondre à cette question, c'est ce qu'on trouve dans les logiciels de type GitHub, par exemple, GitLab. C'est des systèmes en fait, de contribution sur un objet commun au niveau informatique. Mais qui peuvent totalement fonctionner sur des plans, puisque vous avez des données informationnelles de type dessin, et puis vous avez le même. Comment ça fonctionne avec Git? C'est dommage si j'avais prévu, j'aurais fait une conversation assez simple. Finalement, vous êtes, si on fait le rapport avec une Git, vous allez proposer un projet. Quand vous allez proposer un petit projet, d'accord? La personne va critiquer ce projet. Okay, c'est un des éléments du projet. Si je critique simplement, ça reste de la discussion, je n'ai pas obligé de le prendre. D'accord? Par contre, dans un Git, j'ai un intérêt, parce que j'ai utilisé mon logiciel, mais ça peut être plusieurs problèmes, il propose une modification. D'accord? Cette modification, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. On peut discuter avec lui, mais c'est celui qui propose le projet, on a la responsabilité, bien la responsabilité finalement d'accepter ou pas. Si vous acceptez le projet, ce qu'il a proposé rentre en ligne. D'accord? Si vous n'acceptez pas, ça reste à l'extérieur. Lui, ça c'est dans le logiciel, dans votre cas, c'est plus compliqué, mais ça peut être intéressant de partir sur cette idée-là. Dans le logiciel, si vous n'acceptez pas sa proposition, lui il peut continuer le projet. D'accord? Il peut tout à fait continuer le projet en s'emparant de modifications que vous avez faites et de développer de service en ligne. On appelle le fork. Dans un logiciel informatique, je mets ça sur la table. Lui, X, souhaite modifier cette chose-là. J'accepte, j'intègre sa contribution. C'est là qu'on a fait un objet commun. C'est pour ça qu'il s'inscrit son privilégié. Si je n'accepte pas, lui peut continuer le projet en utilisant mon travail, mais continuer le projet avec sa propre version. Donc il n'y a pas simplement la discussion, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il continue le projet. S'il arrive à une entente, en fait, il intègre. C'est comme ça que fonctionne le service de fonctionnalité GitHub. Certainement dans le question dans le domaine des petites modifications, mais cette idée-là est intéressante à avoir en tête aussi. Ce système de fork, je vous invite à regarder, et si là-dessus j'aurais fait une petite démonstration. Ce système de fork, très pertinent. C'est fusionner, j'accepte, je n'accepte pas, et lui peut continuer. C'est le principe. C'est pour ça que je parle d'objet commun. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure, je parle d'une noise forme, de Creative Commons, etc. C'est licence libre qui permet cette chose-là. C'est parce qu'il y a une licence qui permet le partage, l'usage, etc. etc. Que la personne se sent libre de proposer, ça reste à lui, se sent libre. On se sent libre de fusionner, d'accepter sa contribution. Et lui peut se sentir libre de partir avec le projet, de le faire évoluer différemment. C'est bon ? C'est un plaisir.
Oui.